Le Cercle des journalistes de la Lozère.
Le Cercle des journalistes de la Lozère.
Le Cercle des journalistes de la Lozère.
Le Cercle des journalistes de la Lozère, émission spéciale.
Le Cercle des journalistes de la Lozère, émission spéciale.
Émission spéciale, le Cercle des journalistes de la Lozère.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous pour ce débat qui est organisé par le Cercle des journalistes de Lozère. Et nous allons parler de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'était le mercredi 25 novembre. Alors nous allons effectuer un débat autour de cette table. Sur ce plateau sont présents tout d'abord Valérie Lucas. Valérie, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la directrice du CIDF. Également le commandant Marie-Christine Abinal. Madame Abinal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur départemental adjoint de la sécurité publique.
Oui.
À vos côtés, Denis Méfré. Monsieur Méfré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Tout à fait.
À vos côtés, le colonel Stéphane Milonnet. Mon colonel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commandant en second du groupement de gendarmerie de la Lozère. Également autour de cette table, Fanny Dran. Madame Dran, bonjour.
Bonjour.
Substitut du procureur. Madame Anne-Laure Martin, qui est également là et qui est assistante sociale au centre hospitalier de Mende.
Oui, bonjour.
Et puis Claire Galas.
C'est ça.
Madame Galas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éducatrice spécialisée au CIDEF.
CIDFF, oui.
Voilà. Et puis également Daniel Lasserre.
Bonjour.
Qui est la vice-présidente du SEDIF. Valérie, donc, je l'ai dit, mercredi 25 novembre, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu du contexte de cette journée ?
Oui, mais cette journée est une journée internationale, donc qui a pour origine une résolution de l'ONU qui date de 1999 et qui engage en fait tous les gouvernements et les diverses associations à mettre en place des activités et des actions pour aller vers le public, sensibiliser le public à la question des violences qui sont faites aux femmes, voilà, de par le monde.
Très bien, Valérie Lucas, bonjour, Ludovic Terol, 48 FM. Pourquoi 99 ? Pourquoi avoir attendu autant de temps ?
Ben, 1999, en fait, s'appuie sur, enfin, c'est une date qui reprend histoire, en fait, puisque dans les années 1960, en fait, ça fait référence à des femmes qui ont été assassinées dans les années 60 en Amérique centrale. De par leurs engagements, leurs époux étaient incarcérés parce qu'ils étaient des opposants à la dictature en place, la dictature Trujillo. Et ces femmes, rendant visite à leur époux en prison, ont eu malencontreusement un accident de voiture et sont toutes les trois décédées. Il y a eu aussi dans les années 80 des mouvements féministes, toujours en Amérique centrale, où des femmes ont dénoncé les violences qu'elles avaient subies au sein de la famille et hors du cercle familial. Et tous ces événements ont fait boule de neige et ont permis aux membres de l'Assemblée des Nations Unies de prendre cette question
à bras le corps.
À bras le corps.
Vous parlez de violence dans le monde, c'est une journée ici internationale. Les violences consistent principalement en violences physiques. Ça va au-delà, j'imagine.
Alors, les violences de par le monde, on dit qu'une femme sur trois est victime de violences, quelle que soit la forme de violence, que ce soit au sein de la famille ou en dehors de la famille, que ce soit des violences physiques, des agressions sexuelles, mais aussi des violences psychologiques, des violences économiques, des violences matérielles.
D'accord, c'est une femme sur trois battue au cours de sa vie.
Même. Victime de violence.
Victime de violence.
Victime
ouais.
de violence.
C'est
ouais.
ça.
Et en introduction, en fait, j'aurais envie de reprendre les propos de Ban Ki-moon, qui, puisqu'on est au niveau international, qui est secrétaire général de l'ONU et qui disait au cours du 25 novembre 2014, il nous incombe à nous tous de prévenir et de combattre la violence à l'égard des femmes et des filles, en commençant par remettre en question la culture de la discrimination qui la perpétue.
D'accord. C'est propre à chaque pays ou suivant les pays, alors je ne sais pas, on n'a pas de chiffres, j'imagine, mais les violences touchent tous les pays, finalement, les violences faites aux femmes.
Les violences touchent tous les pays. Donc une femme sur trois dans le monde, c'est une moyenne internationale. Et elles vont prendre peut-être des formes différentes selon le pays où on se situe. En France, on va parler des violences conjugales, on va parler du harcèlement au travail, on va parler des violences psychologiques, des violences de rue. On a une campagne nationale qui est sortie il y a très peu, le 11 novembre, sur le harcèlement dans les transports publics. Mais si on reprend le cœur de l'actualité suite aux attentats, on peut imaginer la violence que subissent les femmes syriennes, puisqu'elles n'ont pas le droit de sortir de chez elles, ni d'aller acheter leur pain, sous peine peut-être d'être agressées dans la rue. Donc la violence s'exerce de différentes manières dans tous les pays du monde. On pourrait reprendre aussi les anciens pays du bloc de l'URSS où le viol parfois était une arme de guerre parce que ça déshonorait la femme et aussi la famille. Donc c'est une arme à part entière.
Et ça l'est toujours dans certains conflits à l'heure actuelle aussi. Ce qui est intéressant, on va peut-être venir au niveau lozérien sur le contexte ici lozérien. Vous venez de différents corps de métier. Vous faites des actions en commun, en partenariat.
Bien sûr, nous faisons des actions en commun et aujourd'hui, le but d'être réunis et l'objectif d'être réunis tous ici autour de la table, c'est de montrer que la lutte contre les violences faites aux femmes, elle passe par un effort collectif et un engagement collectif avec chacun un rôle à jouer, que ce soit dans l'accueil, l'écoute, l'accompagnement et les procédures qui sont ensuite engagées par les victimes.
Il faut savoir que la Lozère n'est pas épargnée par ces violences.
La Lozère n'est pas épargnée par les violences. Donc les chiffres qui sont fournis au niveau national, c'est que tous les deux jours et demi, enfin 2,7 jours exactement, une femme meurt sous les coups de son conjoint, que 223 000 femmes déclarent être victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part du conjoint ou de l'ex-conjoint en 2014. Seulement 14% déposent plainte. Et dont 65 000 faits sont constatés au sein du couple ou d'un ex-couple. Alors après, pour ce qui est de la Lozère, je crois que dans cette période, on peut pas transmettre tous les chiffres. Je parlerai simplement des chiffres du CIDF, où pour 2015, au 15 octobre 2015, on a reçu plus de 80 femmes sur l'accueil de jour des femmes qui étaient victimes de violences conjugales, dont la moitié était orientée par les services de gendarmerie ou de police.
Or, pour combattre cette violence, il y a des mesures, des orientations qui sont prises, qui sont mises en place par le gouvernement. On va peut-être entendre de Monsieur Meffray et également notre substitut du procureur Fanny Dran, peut-être sur les réponses à apporter ou sur ce qui peut être fait aussi en amont.
Effectivement, quand on dit qu'on est tous autour de la table, c'est bien évidemment pour mettre en place une démarche interministérielle, interinstitutionnelle. Donc ça n'a de sens que si on travaille tous ensemble et notamment avec un partage d'informations. On reviendra sur ce point-là. Qui sous-tend notre action, en tout cas le service de l'État, alors en période de réserve avec un certain nombre de difficulté à aller jusqu'au bout de mon propos. Il faut le rappeler, et bien évidemment à tous les niveaux d'action, à la fois sur la prévention, on anticipe, on essaye de repérer, de signaler, ensuite sur la prise en charge à tout point de vue, et là, je suis suffisamment d'acteurs autour de la table pour être plus précis dans un premier temps, et ensuite pour sanctionner, et là aussi laissera la justice cet aspect-là, et pour prendre en charge à nouveau, dans une logique de prévention, les acteurs qui sont susceptibles de récidiver. Donc on a bien l'action de prévention, l'action de correction et l'action de sanction. Donc c'est vraiment une stratégie globale qui veut agir à tous les niveaux, et ce depuis 2012, où il y a vraiment une prise de conscience collective, sociétale, on va dire, sans parler des actions des pouvoirs publics, qui nous mène en 2016 à un quatrième plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc avec à chaque fois de nouvelles mesures, une démarche améliorée de manière à réduire et de faire tendre vers le zéro les chiffres dont Valérie Lucas nous a fait part.
Madame le substitut.
Oui.
Sur ces actions que le gouvernement fait pour justement aller à l'encontre de ces violences faites aux femmes.
La question de la violence faite aux femmes, enfin plus généralement des violences conjugales, parce que les hommes peuvent aussi, mais dans une moindre mesure, être victimes de violences conjugales. Ça arrive également, même si on en voit bien moins. Peut-être aussi qu'ils se taisent aussi. Hein, il y a aussi des hommes taiseux. Donc évidemment, il y a une vraie politique pénale qui se développe maintenant depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années, puisque donc la circonstance de conjoint ou de concubin est devenue une circonstance aggravante, alors que pour des violences, dirons-nous, simples, un coup de poing qui ne provoque pas d'incapacité totale de travail ou qui en provoque une, on serait sur de la contravention, donc qui relèverait du tribunal de police. Lorsque il y a cette circonstance de conjoint, de concubin, donc qui suppose aussi une véritable vie commune, ou de partenaire de PACS, c'est une circonstance aggravante qui permet donc d'aggraver la peine encourue, et de passer d'une contravention à un délit, avec voilà, tout le panel de peines aussi qui s'ensuit, et notamment la peine d'emprisonnement. Nous, en Lozère, mais comme partout, hein, comme pour mes collègues, de toute façon, dans les différents parquets, on est très attentif à cette question des violences conjugales. C'est une priorité nationale. Ça l'a été il y a plusieurs années. C'en est encore une. On n'hésite pas à être répressif. C'est vrai qu'on intervient d'abord en répression, puis en prévention de la récidive, en prévention de la réitération. Mais dans un premier temps, malheureusement, c'est lorsque, contrairement au CIDFF, qui peut avoir vraiment une action de prévention pour éviter justement le coup, pour éviter la violence psychique dans un premier temps, lorsqu'il y a peut-être des premiers signes. Nous, on intervient malheureusement lorsqu'il y a eu ce premier coup. Et donc après, s'offre aussi un panel de choix, de poursuites, de mesures alternatives. Il faut savoir que donc en Lozère, on ne dispose pas encore de beaucoup d'alternatives aux poursuites, alternatives donc aux poursuites devant un tribunal correctionnel. On a le rappel à la loi qui peut se faire, qui est peu utilisée. La médiation pénale qui est désormais proscrite la loi. Elle est très 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 encadrée en l'occurrence. La médiation pénale, ça suppose une conciliation, une tentative de conciliation entre l'auteur et la victime. Pour d'autres infractions, il faut que la victime soit consentante, justement consente à la mesure. Pour les violences conjugales, il faudrait vraiment qu'elle la demande, cette mesure, ce qui est compliqué lorsqu'on n'est pas juriste de demander expressément cette mesure, ce qui s'exclut. On a la composition pénale également, qui est une alternative aux poursuites. Et donc, en général, ce qui va être davantage privilégié, ça reste tout de même la poursuite devant un tribunal correctionnel. Et là encore, on a différents modes de poursuite. Il faut savoir que donc la problématique des violences conjugales, c'est qu'on a souvent également c'est souvent des femmes, hein, donc on a souvent des femmes victimes qui ne souhaitent pas déposer plainte. qui déposent plainte, mais qui souhaitent tout de même retourner avec avec leur compagnon. Ça arrive aussi, c'est une réalité. Dans ces cas-là, on va plutôt privilégier une convocation en justice à un certain délai. On a la chance, par contre, d'avoir des délais assez rapprochés ici, compte tenu de la faible délinquance. Donc, on arrive quand même à juger. La semaine dernière, on était au tribunal et on jugeait des faits qui s'étaient passés fin septembre, début octobre. Donc on a quand même des délais d'audiencement qui sont très satisfaisants ici. Et puis on a également la convocation par procès verbal avec un contrôle judiciaire éventuellement, ou une comparution immédiate. Et ça, ça va dépendre des antécédents de la victime, du mis en cause, pardon. Du préjudice de la victime, évidemment, hein, préjudice physique, psychique, du risque de réitération. Et de la volonté aussi de la victime, justement, d'être écartée de l'auteur. On a également, voilà, qui dit vie commune, dit domicile commun. Et pour qu'il y ait une mesure d'éloignement, on en vient, voilà, un contrôle judiciaire ou une comparution immédiate. Comparution immédiate, ça suppose, à terme, en tout cas pour de mon côté, pour le parquet qui requiert une demande de mise en détention, justement pour écarter l'auteur et éviter... voilà, le risque de réitération.
Justement, l'éloignement, c'est la principale mesure pour prévenir cette possible réitération. On a
heureusement que non, parce que comme je le disais, voilà, on a beaucoup de victimes qui souhaitent néanmoins rester avec leur compagnon. Ou on a aussi beaucoup de violences conjugales qui sont en fait des violences entre ex-conjoints, ex-concubins ou ex-partenaires de PACS. Dans ce cas, il y a des domiciles différents et il n'y a pas forcément au moment, voilà, où il y a la plainte de véritables risques de réitération, on peut des fois attendre l'audience. Et à ce moment-là, il y a tout un panel. Il y a le sursis simple, qui est on dit souvent à l'audience que c'est une épée de Damoclès, puisque si la personne réitère et réitère tout type d'infraction qui entraîne la condamnation à une peine d'emprisonnement, il peut la précédente peine avec sursis peut être mise à exécution. Donc c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on a toujours au-dessus de la tête pendant un délai de 5 ans. Et surtout, ce qui est souvent privilégié, surtout pour ce qu'on appelle les primo-délinquants, donc ceux qui passent une première fois devant un tribunal ou une première fois pour ce type de choses, ça va être tout ce qui est sursis avec mise à l'épreuve et avec obligation de soins. Parce qu'il y a souvent une problématique de soins, beaucoup d'alcool, il faut le dire, même si ce n'est pas la justification de ces violences. Mais on est parfois dans un contexte d'alcoolisation massive, de stupéfiants. Et puis après, il y a aussi toute une problématique psychologique, voire psychiatrique. Et donc là aussi, qui dit obligation de soins, dit que si l'on ne respecte pas cette obligation de soins, le juge de l'application des peines ou le tribunal correctionnel, le cas échéant, peuvent révoquer donc la peine d'emprisonnement, et cette peine peut être ensuite ramenée à exécution. Voilà.
Au niveau de sur le terrain, ce sont les forces de l'ordre qui sont aux premières loges pour constater ces faits, que ce soit la police ou la gendarmerie. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur la Lozère, peut-être pas les donner cette fois, mais est-ce que il y a une tendance sur le fait qu'il y ait une augmentation de plaintes ou de signalements de ces faits? Est-ce que vous avez noté ça de votre côté,
Madame Abinel?
Bien, pour la zone police, une augmentation des faits, non, pas réellement. Par contre, ce qui est vrai et ce qui va confirmer les tendances relevées au niveau national, la majeure partie des violences faites aux femmes se produit dans le contexte familial. Ça, c'est une certitude. Hein. Maintenant, en qualité d'intervenant, on a connaissance de ces faits de deux manières. Ou on est appelé sur une situation conflictuelle en cours, c'est-à-dire à domicile. Bon, là, pour nous, c'est plus simple d'évaluer la situation, parce que quand on intervient à domicile, obligatoirement, il y a plein d'indicateurs qui renforcent nos éléments d'enquête et notre investigation, hein, que ce soit d'abord le contexte familial, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il n'y a pas d'enfants, dans quel état est la maison. On voit davantage de la violence si tous les meubles sont cassés, par exemple. Hein, on a vite fait d'évaluer la situation et de prendre les mesures ad hoc. Et puis la deuxième situation où c'est la victime qui vient au service et qui vient dénoncer les faits dont elle souffre, parfois, depuis plusieurs années. Alors maintenant, quant au suivi qui est fait, c'est aléatoire. Hein. Dans tous les cas, il y a des mesures qui sont prises à l'encontre des auteurs, hein, le plus immédiatement possible. On est tous liés là, autour de la table, par une convention que nous avons signée en juillet 2014, qui nous invite à nous rapprocher les uns des autres dans des situations telles que celle-ci, c'est-à-dire que nous, policiers ou gendarmes, d'ailleurs, on prend des plaintes, on informe le parquet de ces faits, et inévitablement, on met dans la boucle le SIDEF en leur transmettant, avec l'accord de la victime, en leur transmettant les coordonnées du SIDEF ou les coordonnées de la victime. Enfin, voilà, il y a un échange qui se fait et il y a une transmission qui est clairement établie au niveau départemental.
Est-ce que certaines femmes retirent leur plainte ensuite ? Est-ce que ça arrive ?
Oui, malheureusement. Oui. Alors des fois, on a aussi la femme qui va se présenter, qui va venir déposer plainte, mais c'est comme, comment dire, elle lance une bouée de secours. C'est-à-dire qu'elle vient et c'est une menace faite au mari. Regarde, je suis capable de faire la démarche de. Donc là, inévitablement, la dénonciation de ces faits-là ne dure pas. Hein. C'est dans les 48 heures, on a, bon, finalement, je voudrais retirer ma plainte. Néanmoins, ça n'exclut pas que la démarche, la prise en charge est enclenchée. Je veux dire, elle reste dans nos. Les faits restent dans notre, à notre connaissance. La connaissance est transmise au parquet et évidemment au CDF, parce qu'on leur propose éventuellement d'aller trouver une solution, de se tourner vers le CIDF. Hein, plutôt que vers la justice, c'est une alternative aussi. Hein, et quelque part, c'est aussi quand même une prise en charge.
Et peut-être c'est plus rassurant aussi d'aller vers le CDF, de suite de la justice.
Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher une victime d'imaginer ce que risque l'auteur quand il est confronté à la justice. Hein. C'est vraiment, souvent, c'est un engagement plus lourd, c'est quelque chose de plus pesant. Donc, peut-être qu'effectivement, le CDF les réconforte, en fait.
Bah, le rôle du CIDF, en fait, c'est, et puis de Claire qui est là, c'est bien d'accueillir, d'écouter, et puis d'accompagner dans sa temporalité la victime. Et c'est vrai qu'on voit des policiers ou bien des gendarmes nous solliciter en disant « je reçois une victime qui ne souhaite pas encore déposer plainte, qui ne sait pas où elle en est, qui effectivement est peut-être encore en couple, ne souhaite pas mettre en cause l'auteur immédiatement, mais qui a aussi besoin de cheminer et de se préparer aux procédures. » Donc c'est de l'accompagner à la décision ou de quitter le domicile, de se séparer, ou d'engager des procédures, ou ben, de l'aider à surmonter la violence ou à l'éviter quand elle reste en couple.
Pour certaines femmes, c'est quand même le mari, c'est le père des enfants. Alors elles ne veulent pas peut-être qu'ils soient condamnés, qu'ils partent en prison.
Effectivement, l'auteur reste le père. Il y a aussi toutes les questions économiques, la question de domicile. Je pense que chacun qui aurait pu vivre le divorce sait combien ça doit être compliqué la séparation, mais j'ai tendance à penser que la séparation dans des cas de violence est encore plus compliquée, avec une position de dépendance, les victimes sont sous emprise, et parfois l'étau s'est vraiment resserré auprès d'elles. J'ai en tête la situation d'une femme mariée, deux enfants, pas victime de violence physique, mais victime de violence matérielle, sans compte en banque, ne travaillant pas. Quelle difficulté pour quitter le domicile, quoi, hein, puisque sa solution, c'est de trouver peut-être un hébergement, ben, comme pourrait le proposer le CIDF, de se retourner vers des associations caritatives pour vivre et pour faire vivre ses enfants, retrouver de la confiance en elle pour retrouver un travail. Enfin, tout est très compliqué.
Donc, colonel, j'imagine que c'est la même chose pour vous, les gendarmeries, en plus dans une zone un peu plus élargie et parfois plus rurale aussi.
Oui, ce que disait le commandant Abinal est vrai aussi pour la gendarmerie. Hein. Nous sommes dans un territoire rural, il y a de la violence jusqu'au plus profond, pardon, du territoire, du département. Le rôle des gendarmes, c'est surtout d'être des révélateurs de situations et de transmettre donc les situations que l'on a à connaître au CIDFF, hein, au Centre d'information pour le droit des femmes et des familles, et bien sûr au parquet. Le gendarme, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Hein, donc c'est lui qui détecte les situations. On est souvent appelé soit par les victimes elles-mêmes, soit par des voisins sur des, ce qu'on appelle des différends familiaux ou des disputes conjugales. Et peut-être qu'à une certaine époque, le gendarme arrivait sur les lieux. Il faisait peut-être cesser l'infraction à l'instant T. Mais bon, ça recommençait dès qu'on était parti ou ça recommençait le lendemain. Grâce au travail qui a été réalisé de partenariat entre tous les acteurs de la chaîne de lutte contre les violences faites aux femmes, hein, donc avec le CIDFF, avec la DDSPP, avec le parquet, dans les heures qui suivent les violences, tous les acteurs sont informés. Et le commandant Binel le rappelait tout à l'heure, on a mis en place aussi un autre protocole qui consiste à remettre à la victime un coupon sur lequel elle a toutes les informations utiles pour qu'on puisse l'aider hein, sur le plan matériel ou psychologique au travers des psychologues qui sont au CIDFF. Et donc, lorsque le gendarme quitte le domicile familial, la victime, il lui reste quelque chose. Hein, donc, elle sait qui appeler et elle sait quoi faire. Voilà. Ce que je voudrais aussi rajouter aujourd'hui, c'est que en 2015... Enfin, la gendarmerie, elle a principalement pour rôle de défendre les personnes avant de défendre les biens. Et il est totalement insupportable de voir encore les chiffres qu'a rappelé Valérie Lucas tout à l'heure, de voir donc des femmes mourir sous les coups de leur mari. Parce que on le redisait aussi tout à l'heure, c'est bien souvent et très généralement au sein du domicile conjugal que ça se passe. Hein, et malheureusement sous les yeux des enfants, hein, ce qu'on appelle les enfants témoins.
140 000 enfants, j'ai noté pour cette année, 140 000 enfants vivent avec une maman qui est victime de violences. Je trouve le chiffre phénoménal.
Oui.
Au niveau national.
Donc quand même, ce que l'on a de plus cher en tant qu'être humain, c'est quand même les femmes et les enfants. Et notre rôle, c'est de mettre toute notre énergie pour les protéger du mieux qu'on le peut.
Donc, est-ce qu'en zone de gendarmerie, ces violences sont plus cachées, comme la misère, qui est plus peut-être cachée
non,
en zone rurale, vraiment rurale.
Non, je pense
non.
pas. Non. Donc pour vous donner une tendance ou un volume, il y a environ, nous transmettons au parquet chaque année entre 40 et 50 procédures hein, de violence, donc de femmes qui sont venues porter plainte. Il faut aussi savoir, c'est très important, que nous transmettons au parquet non seulement bien évidemment les procédures pour lesquelles les femmes ont porté plainte, mais aussi des procédures dans lesquelles on a connaissance des violences factuelles, dont la femme nous a dit non, je ne veux pas que ça soit porté à la connaissance de la justice, mais au travers de ce qu'on appelle un procès-verbal de renseignement judiciaire, on transmet malgré tout, dans le seul but de protéger donc, cette femme et la famille, la procédure au parquet qui après, donc, connaissance de la situation, et peut prendre les décisions qui s'imposent.
Oui, le parquet n'est pas lié par le dépôt de plainte ou par le retrait de plainte. Voilà. Et la femme, si ça arrive aussi beaucoup, hein, elle dépose plainte. Alors des fois, on a effectivement un appel au secours, un appel à l'aide, un appel à l'attention. On a aussi beaucoup de femmes qui sont sous emprise, qui ont très très peur, on voit qu'elles ont des coups, elles veulent pas se faire visiter par des médecins. Qu'importe, on poursuit. On l'a fait cet été. Voilà, une femme, elle avait une fracture au visage, ça se voyait, elle a retiré sa plainte, comparution immédiate. Avec un bébé, on ne peut pas laisser passer ça, peu importe ce qu'elle nous dit, parce que s'il arrive quoi que ce soit d'autre, de pire, que ça se réitère, que. Voilà, on aura ça aussi sur la conscience. Alors on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour elle. Et ce sont des choses insupportables, et peu importe leur position, on sait aussi leur. Justement, toute la détresse psychologique dans laquelle elles sont, on a un véritable schéma, hein, ça se reproduit très souvent, hein, du retrait de plainte, je répète ce qui a été dit, mais c'est la réalité avec cette détresse psychologique. Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? J'ai pas de travail. Le domicile, on a quand même quelque chose de plutôt confortable, voilà, qui est quand même correct. Si je pars demain, même au CIDFF, ça sera beaucoup moins bien. Avec les problématiques géographiques, ça nous fait partir à Mende alors qu'on est à Saint-Chély, qu'on est à Florac, etc. Donc il y a toutes ces questions qu'elle se pose, mais à un moment, voilà, nous, police comme gendarmerie et parquet, on se doit de dire stop, évidemment.
C'est intéressant ce que vous dites de prendre les devants sur certains cas. Vous voulez intervenir, M. Meffray ou M. Milonnet ?
Sauf si vous vouliez compléter.
Alors, oui, je voulais juste compléter pour dire que, bon, à l'heure où on se parle tous, là, en Lozère, il y a des familles, les gens, il y a des femmes qui sont victimes de violences. Et donc, je veux leur dire qu'il faut absolument rompre le silence, hein, donc, et transmettre en appelant le 3919. On n'en a pas parlé encore, mais on le fera sûrement. Hein, donc, les souffrances donc, qu'elles subissent, de manière à révéler, hein, je le répète, en 2015, c'est plus possible de voir autant de violences sur des femmes et bien souvent sur les enfants qui en sont témoins.
Je voulais insister sur la structuration du dispositif. C'est important. On a quelques bribes là, d'un dispositif, mais on a parlé de convention. Je voulais parler d'un schéma départemental de lutte contre les violences qu'on a choisi dans le département de mettre en place de façon à inscrire et inscrire dans le dur toutes les dispositions, toutes les mesures qui peuvent être mises en œuvre. Et je m'explique. Les personnes changent dans les structures. Donc une bonne volonté, parce qu'autour de la table on voit qu'il y a un très bon partenariat, et puis dans 5 ans il faut qu'on puisse garantir les mêmes capacités d'intervention, donc des conventions et parallèlement à ce dispositif, la circulation d'informations. Je crois qu'on est vraiment dans une logique, en tout cas en Lozère, de partager l'information, de l'échanger, de manière à ne pas passer à côté de situations particulières, pour deux raisons. La première, c'est donc inscrire la personne dans un parcours de prise en charge. Donc là, on en a eu quelques étapes, on a parlé d'hébergement. Mais on a d'autres mesures dont on pourra parler. Je préfère que ce soit les opérateurs qui en parlent que moi. Donc inscrire dans un parcours, justement, pour garantir les droits à ces personnes qui sont suffisamment brutalisées par la vie, et dans le sens propre et dans le sens figuré du terme, pour qu'on n'oublie pas de leur offrir des droits au logement dès lors qu'on leur propose un éloignement, au travail, à des droits sociaux, à des ressources type prestations familiales. Donc bien inscrire dans ce contexte-là. Et au-delà de l'inscription du parcours, c'est de désigner ou de tenter de désigner un référent unique, une personne qui va pouvoir accompagner à travers tous les intervenants et tous les partenaires sur l'ensemble des démarches, et non pas être confronté, comme on l'a également sur le champ de la pauvreté, à donc un travailleur social qui sera sur un domaine donné, un autre qui sera sur le logement, un autre qui sera sur le travail, de pouvoir échanger l'information et travailler de façon concertée. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt d'un dispositif et d'un partenariat qui est bien installé sur le département et qui fonctionne bien. L'information doit circuler.
Justement, Claire Galas.
Oui, alors du coup, pour prendre sens, on vous propose je vais vous parler d'une situation concrète. Hein. Le service social de l'hôpital est là, donc je vais vous parler d'une situation qui nous a été orientée par le service social de l'hôpital. Donc c'est une dame d'une quarantaine d'années qui s'est présentée, orientée par le service social de l'hôpital, il y a quelques mois. Donc cette dame était mariée depuis très peu de temps et avait déjà des enfants d'une première union. Le dernier de ses enfants était encore à charge, puisqu'il a 15 ans actuellement, et il était présent au moment des faits. Cette personne avait subi la veille des violences physiques de la part de son nouveau conjoint. Donc les assistantes sociales de l'hôpital ont orienté la personne dans un premier temps vers les urgences, et en parallèle nous ont contactés pour nous l'orienter. Donc cette dame est sortie des urgences avec une côte cassée, donc, et s'est présentée dans nos services. Encore en état de choc, elle était très inquiète puisqu'elle s'était présentée amende, mais son fils était resté au domicile où le conjoint était. Et donc elle souhaitait à la fois ne pas retourner au domicile, récupérer des affaires et surtout récupérer son fils. Nous disposons d'une place d'hébergement, nous lui avons proposé la place d'hébergement. Je me suis mise en lien avec la gendarmerie de son village, hein, qui ont mobilisé 2 personnes pour l'accompagner physiquement jusqu'à chez elle, où elle a pu récupérer des affaires et son fils. Et depuis, et nous l'avons hébergée. Cet hébergement a duré 3 mois, puisque elle a très vite évoqué le souhait de rester sur Mende. Travaillant sur place et devait lancer des démarches de logement. Il y a eu un accompagnement par le CIDFF sur l'hébergement, donc dans le cadre des demandes de logement social, puisque c'était une personne prioritaire sur le relogement. Elle s'est inscrite dans tout un travail d'accompagnement avec nous. Elle a bénéficié dans un premier temps d'un service de domiciliation postale pour pouvoir recevoir son courrier, du service de soutien psychologique, du service juridique, bien entendu. Elle a rencontré la juriste à plusieurs reprises pour savoir où ça en était. Voilà, donc l'accueil a duré 3 mois et pendant ce temps-là, donc tout ça s'est mis en place. Elle est sortie il y a quelques jours sur un logement autonome et entre-temps, monsieur a été condamné, donc il y a eu une plainte qui a donné lieu à un procès. Le tribunal correctionnel a condamné monsieur à 6 mois de prison ferme, c'était un récidiviste, 1 000 euros de dommages et intérêts et 450 euros au titre des frais de procédure. Voilà un exemple très concret du partenariat qu'il peut y avoir avec l'ensemble des partenaires.
Vous parliez d'hébergement. Combien de places le CIDFF sont disponibles?
Une place pour le CIDFF. Après, deux autres structures gèrent aussi des places.
Donc vous parliez du service de l'hôpital. Peut-être on va en parler avec vous, Anne-Laure Martin. C'est quoi exactement ce service de l'hôpital? Comment il fonctionne?
Alors, moi, je suis au service social hospitalier, donc au sein de l'hôpital. Donc, il y a plusieurs façons de rencontrer ces personnes qui sont victimes de violences. Sur l'exemple qui a été donné, elle s'est présentée à nous et on a pu l'accompagner au service des urgences, là où il y a des médecins, parce que il y avait besoin de constater les faits. Donc, la victime, elle peut rencontrer un médecin qui la soigne, du coup, en traitant les troubles somatiques, mais aussi psychologiques et du coup, liés aux violences. Un certificat médical de constatation des lésions est rempli, peut être donné à la patiente si elle le souhaite ou gardé, du coup, dans le dossier si la personne n'est pas prête à porter plainte ou n'est pas dans cette démarche-là. Du coup, la victime, à ce moment-là, au niveau des urgences, est accompagnée par nous ou pas, parce que quand elle est reçue et qu'on n'est pas dans le service, on n'est pas là, nous, comme les médecins aux urgences, tout le temps. Les médecins des urgences peuvent l'orienter, du coup, vers un suivi psychologique avec les consultations psychiatriques au sein même des urgences. Et puis après, des orientations vers les centres médico-psychologiques. Ils ont aussi les plaquettes du CIDF avec qui on travaille, qui peuvent donner à la victime pour qu'elle reparte avec, et le numéro du 3919 pour qu'elle puisse appeler de suite. Ils font aussi, dans les cas les plus graves, une orientation vers les services de police et de gendarmerie pour le dépôt de plainte en orientant la personne pour qu'elle y aille, mais il est arrivé aussi que la gendarmerie ou la police se déplace au service pour rencontrer la personne, et voilà, dans les faits vraiment graves, on prend aussi les devants pour qu'elle puisse accéder à ce service-là. Il peut y avoir du coup une hospitalisation qui est décidée pour prendre le temps d'évaluer la situation du coup en équipe pluridisciplinaire et prendre le temps avec la victime qui n'est pas toujours prête à déposer plainte ou prête à vraiment expliquer sa situation, qui est dans le déni de ce qui se passe à la maison. Donc à ce moment-là, on prend plus de temps pour lui donner les possibilités qu'elle a, si elle le souhaite. Et du coup, le service social, il peut aider les victimes à effectuer toutes les démarches avec le service social du département, avec qui on travaille forcément en partenariat, pour ouvrir les droits donc aux prestations familiales, à la sécurité sociale, les comptes bancaires que des fois elles n'ont pas. On essaye de leur dire qu'on va faire tout ça avec elles en urgence si elles le souhaitent. Et puis on parle aussi avec elles du coup de tout ce problème lié au logement. Parce que forcément, si elles quittent le logement, on l'a dit déjà, voilà, c'est leur logement. Quand il y a des enfants, on prend aussi cette notion-là de protection de l'enfance de suite, avec une possibilité de signalement qu'on peut faire directement, même sans l'accord de la personne. Et ça nous est arrivé. Bien sûr, on le lui dit, mais si elle est vraiment pas prête à déposer plainte, on le signale au service du procureur dans les cas les plus graves où la personne est vulnérable ou quand il y a protection de l'enfance. Et toujours en amont, avec un lien téléphonique au service du parquet pour assurer la suite, pour pas envoyer un signalement. Et que si la personne, elle rentre au domicile, après, il y a tout ce qui s'ensuit derrière. Donc, on est en relation avec le service du procureur. Et tout ça, on le fait en lien avec le CIDF à chaque fois qu'on a une situation qui se présente à nous. Alors le travail en collaboration, il est important parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et puis, il faut prendre le temps sur des situations où on revoit revenir la personne à l'hôpital pour des faits qui ne sont pas forcément liés à cette violence-là. Mais voilà, il y a quelques signaux d'alerte qu'on a appris à évaluer, à trouver des solutions et à discuter. Et souvent, ça demande plusieurs départs, retours, voilà, comme le schéma de la femme victime qui retourne souvent auprès de son compagnon.
Et vous permettez, par exemple, dans ce cas précis, un soutien psychologique immédiat. J'imagine que c'est extrêmement important de pouvoir apporter immédiatement, après un fait comme ça, une aide
voilà, psychologique. Alors, au service des urgences, il y a la possibilité de faire appel au service du service psychiatrique qui intervient sur des demandes des médecins des urgences. Et après, on travaille avec le CIDF. Nous, à l'hôpital, on n'a pas la psychologue au niveau victimologique. Alors, on a des psychologues dans d'autres services et dans les cas les très lourds et avéré, on fait appel à eux, elles rencontrent quelqu'un rapidement quand c'est possible sur l'hôpital, mais après on est en lien avec les secteurs à l'extérieur.
Peut-être rappeler au CIDFF, vous avez combien de psychologues, des juristes qui
alors, au CIDF, nous avons une psychologue clinicienne qui est formée sur la question des violences conjugales, qui intervient dans la limite de nos moyens, puisqu'elle est présente sur un mi-temps, et on constate que les agendas sont remplis, voire surremplis. Jusqu'à maintenant, on arrivait à avoir des rendez-vous à peu près à la quinzaine. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de tenir les demandes, puisqu'on a plus de 60 femmes qui sont accompagnées. Donc un accompagnement, c'est un entretien d'une heure qui est gratuit et qui s'inscrit aussi dans le temps. Qui intervient à différents moments, que ce soit avant la séparation, après la séparation, pendant les procédures, etc. On a ensuite une juriste spécialisée en droit de la famille qui intervient pour une information, hein, non pas un conseil puisque c'est le rôle des avocats, mais pour une première information sur les droits, les procédures pénales. Et Claire Galas, qui est éducatrice spécialisée et qui intervient sur l'accueil de jour. L'accueil de jour étant un dispositif donc qui intervient dans le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est un dispositif qui permet à chaque femme de victime de se présenter au CIDF du lundi au vendredi sans contrainte administrative particulière, sans exigence de rendez-vous, etc. Normalement, le CIDF doit pouvoir recevoir, en dehors des fermetures ponctuelles, les femmes du lundi au vendredi. Voilà.
Et les forces de l'ordre, finalement, vous êtes les premiers psychologues arrivés sur les lieux également.
Psychologues, oui, par la force des choses, on est les premiers témoins.
Ça, c'est évident. Vous avez un rôle
quand
clé.
On arrive sur place, la situation nous explose à nos yeux. Donc voilà, c'est sûr qu'on va la rapporter, on va la traduire. Et puis je voulais préciser quand même qu'on parle beaucoup de violences physiques, hein, des coups et blessures, hein, comme ils sont qualifiés en termes de en termes pénals. Mais on voit arriver quand même de plus en plus souvent des plaintes. Et là, c'est des personnes qui sont vraiment, vraiment au bout du rouleau, qui sont victimes de harcèlement au sein du couple. Et alors, ces situations-là qui ne sont pas palpables, elles ne sont pas constatées, une situation de harcèlement, puisque c'est une situation latente, c'est quelque chose déjà prise de conscience, ça demande un certain temps. Souvent, les personnes sont détruites, hein, quand elles arrivent à révéler les faits. Et puis, ça, pour nous, c'est difficilement palpable. Hein. Bon, malgré tout, on prend, on fait ce qu'on peut. Et là, le partenariat est encore plus important, puisque ce seront vraiment les gens du corps médical et social qui vont devoir aider la personne à révéler les éléments. Sachant que nous, on est obligé quand même de requérir des éléments, justement, que l'on va fournir au procureur et à madame la substitut pour qu'il puisse évaluer la situation également. C'est très particulier. Et parmi les violences physiques, même au sein du couple, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des violences sexuelles. Elles ne sont pas négligeables, elles existent. Et le couple n'abolit pas ce type de violence. Et elles sont importantes aussi. Elles laissent des traces, hein, quand même aussi.
Je voulais revenir sur ce partenariat donc, qui a été signé à l'été 2014, il me semble.
Alors, il y a eu effectivement deux conventions, l'une qui avait été signée en novembre 2012, si je me souviens bien, et l'autre en juillet 2014. La première concernant en fait le dispositif d'accueil des femmes victimes de violences qui venaient déposer plainte et effectivement l'orientation vers des associations pouvant accompagner ces victimes. Et la deuxième convention étant liée en fait au traitement des mains courantes lorsque les femmes ne souhaitait pas déposer plainte et qui vient finalement compléter la première convention pour généraliser, on pourrait dire, sur le territoire l'orientation des victimes vers différents dispositifs.
Alors, pour être très clair, la pratique main courante est une pratique typiquement policière. Hein. Elle nous est réservée, malheureusement. Et c'est pour la... Pour la victime, c'est un compromis, finalement. Hein. Bon, une main courante, j'engage pas de procédure, sauf que c'est très clair, nous ne prenons plus de main courante. Pour toute infraction pénale, on ne relève plus de main courante. Donc, ça fera toujours l'objet d'un acte de procédure, qui est une saisine, hein, dans notre terme, et qui sera transmis au parquet, puisqu'on n'a pas forcément besoin de plainte. Pour engager l'action du parquet.
Lors de ces mains courantes d'interpellation ou autre, vous pouvez laisser donc des coupons de renseignements pour le CIDFF. On ne peut pas obliger, par contre, les personnes à y aller.
Non, on a toujours besoin de leur aval et de leur autorisation, ne serait-ce que pour communiquer leurs coordonnées. Bon, alors maintenant, vous vous doutez bien quand même que si on arrive dans une situation très conflictuelle à domicile, où ça crie, ça hurle, et puis finalement, on n'arrive pas à évincer. Le plus souvent, on évince l'auteur, hein, bien sûr. On ne le laisse pas. Dans une situation conflictuelle, on ne laisse pas l'auteur sur place, où il trouve un hébergement, ou dans les cas où il est alcoolisé, ben, l'hébergement, il est trouvé à l'hôtel de police. On trouve une solution. Mais parfois aussi, et ça, il faut faire confiance à ce que vous appeliez la psychologie du policier, il n'est pas judicieux, en partant, de laisser à l'attention de la dame les coordonnées du CIDEF, parce que ça peut faire monter un peu aussi la pression une fois que nous, on a fermé la porte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les coordonnées de la personne et on la rappelle. On reprend contact avec la victime. Et là, effectivement, il y a un nouvel échange qui se fait, il y a une nouvelle traduction des faits qui est apparue. On fait le maximum pour que le CIDEF soit saisi.
Oui, c'est intéressant, ça, de suivre ces personnes.
Et ceci pour l'intérêt de la victime, évidemment.
Bien sûr, oui, prévenir, c'est concernant la victime.
Pour prévenir la récidive, surtout.
Je pourrais juste rajouter qu'effectivement, le partenariat marche dans ce sens, mais il marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui se présentent spontanément dans nos services et qui sont des fois pas du tout prêtes à la plainte ou à une simple déclaration. Et donc notre travail aussi, en fonction de la gravité des éléments qu'elles nous ramènent, c'est petit à petit de les amener à peut-être aller vers des services de l'ordre. Voilà, donc on a vraiment un travail dans les deux sens. Hein.
Puis on n'est pas encore entré dans le détail, mais il y a ce numéro, le 3919. Alors à quoi il sert, à qui il est destiné?
Monsieur Meffray.
Allez-y, oui.
Alors le 3919, c'est un numéro d'appel national qui est gratuit et anonyme, qui est accessible 7 jours sur 7, je crois, et 24 heures sur 24, qui permet à toute femme victime de violences, pas exclusivement conjugales, hein, de faire ce numéro et d'être orientée sur les dispositifs spécifiques de chaque département. Et j'ai lu hier que sur ce numéro d'appel en 2014, les chiffres avaient doublé par rapport à 2013. Donc je pense que c'est l'impact des différentes communications. Et vous reverrez encore ce chiffre 3919 sur différentes campagnes, puisque le gouvernement de nouveau a relancé une campagne. Enfin, je lance la balle à Monsieur Meffray.
Je ne pourrais pas la recevoir.
Vous ne pourrez pas. Donc une affiche avec différents mots, violence conjugale, viol, harcèlement, attouchement, violence psychologique, agression sexuelle, mariage forcé, paraîtra dans différents lieux, que ce soit l'entreprise, que ce soit des commerces, que ce soit en commissariat, en gendarmerie. Nous-mêmes, on l'a déjà affiché au CIDF pour encourager chaque femme victime à solliciter dans un premier temps peut-être cet appel, ce numéro, le 3919, pour les aider à libérer la parole.
C'est un travail également qui doit être fait, j'imagine, dès le plus jeune âge, au niveau du public, notamment scolaire. Il y a des opérations qui sont des interventions dans des lycées qui sont effectuées tout au long de l'année.
Effectivement, toute l'équipe du CIDF s'est mobilisée cette semaine pour aller dans les établissements scolaires, donc sur un lycée à Saint-Chély, à Mende, à la Canourgue, pour aller rencontrer les jeunes et à partir d'outils vidéo, Fred et Marie et Marie et Fred, qui sont des courts-métrages, aborder avec eux la question des violences et débattre sur ces violences. Parler des stéréotypes, des conséquences, en termes d'éducation, etc. Enfin, je laisserai la parole à Claire, qui elle-même est intervenue auprès de classes de terminale, je crois.
Alors terminale, oui, et BTS aussi. Voilà. Donc effectivement, nous présentons deux films qui sont axés là sur de la violence conjugale. Ce sont des actions de sensibilisation, mais aussi ça permet aux élèves de pouvoir éventuellement poser des questions. C'est très très bien perçu. Hein. Ça fait 2 ans que j'interviens là-dessus et il y a vraiment une écoute des élèves.
Et une prise de position des jeunes aussi. C'est intéressant de voir les jeunes à la fin du film dire mais c'est pas normal, ça doit pas être. Et du coup, d'aller questionner cette thématique-là et peut-être aussi d'être acteur pour la prévention.
J'allais vous dire, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe et j'espère, que les jeunes ne se rendent pas compte de l'ampleur de ces violences à l'heure actuelle, que ça existe, qu'il y en a autant. Mais peut-être que je me trompe.
Finalement, effectivement, à l'âge où ils ont, au terminal, ils n'ont pas encore vécu en couple. Tout est beau, tout est rose. Les difficultés, malheureusement, elles arrivent après, donc ils n'en ont pas conscience, ça c'est vrai. Et concernant la prévention, effectivement, il serait aussi très intéressant de pouvoir diffuser un message particulier à la portée des jeunes qui sont en école primaire pour leur apprendre que dès le plus jeune âge, un garçon ne porte pas la main sur une fille. Voilà. Donc si c'était fait plus souvent, plus régulièrement et partout, je pense qu'on sèmerait des graines pour l'avenir.
Ne serait-ce que dans le respect des mots. Les mots MOTS, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on constate quand même des abus de langage. Hein. Je me suis trouvée moi-même en situation à me dire qu'est-ce que je fais en passant devant deux jeunes filles qui s'interpellaient avec deux autres jeunes devant un lycée Mandois et qui utilisaient un langage complètement châtié. Et je me suis posé la question, est-ce que je m'arrête pour leur faire la morale ou est-ce que je passe mon chemin ? J'ai passé mon chemin. Mais ça m'a vraiment questionnée en me disant, il y a une banalisation de mots à connotation sexuelle, irrespectueux, etc. Et effectivement, je pense que l'école devrait être un lieu d'éducation au respect, puisque c'est souvent aussi dans les projets d'école. Hein, les projets d'école parlent de respect filles-garçons, mais ça serait bien que l'action suive les projets.
En ajoutant qu'effectivement certains maires se posent la question de comment habiller leurs projets éducatifs territoriaux, quelles actions, quelle animation mettre auprès des jeunes, il y a tout un tas d'éléments d'actualité en ce moment qui nous invitent à travailler sur la citoyenneté, sur l'égalité femmes-hommes. Donc là, on a matière, on a le support pour faire passer. Donc on parlait d'activité scolaire, mais on est aussi sur le périscolaire ou l'extrascolaire, de faire passer un certain nombre message, lutte contre les stéréotypes et savoir vivre ensemble. Donc on est bien dans une préoccupation actuelle qu'il faut absolument que tout acteur, et notamment les maires, s'approprient pour pouvoir travailler au plus tôt, au plus jeune âge, avec les futurs adultes.
Justement, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont à venir dans le cadre de cette lutte contre la violence faite aux femmes? Par exemple, il y a le dispositif Femmes en très grand danger.
Oui. Donc il y a effectivement le téléphone grand danger qui, donc on n'a pas encore signé la convention, ça ne saurait tarder. J'espère que d'ici la fin de l'année, avec les événements récents, ça a un petit peu retardé, mais je pense que voilà, ça va se faire, qui est un dispositif national, qui a été expérimenté en Seine-Saint-Denis, qui est toujours un peu en expérience, qui est en application en région parisienne et en Alsace, de mémoire et dans certains autres tribunaux, enfin, autres ressorts. Et en fait, il s'agit d'attribuer un téléphone à une femme qui a été de toute façon victime de violences conjugales, qui bénéficie d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact. L'auteur est donc fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime bénéficiaire de ce téléphone. Et cette personne donc va se voir remettre par le procureur un téléphone, et elle pourra à tout moment, si justement elle se sent en danger, si elle pense que l'auteur est proche de son domicile et proche d'elle, qu'il essaie de la joindre, d'entrer en contact avec elle, appeler donc un numéro avec ce téléphone grand danger, qui sera relié donc à un dispositif mondial assistance, qui ensuite aura un lien privilégié avec le 17, une ligne privilégiée en fait avec le 17, et qui permet ensuite l'intervention des forces de l'ordre, de police ou de gendarmerie, dans des délais très très courts. Donc en principe, en Lozère, nous en aurons un, sous réserve de besoins supplémentaires. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se faire d'ici, je pense, le premier trimestre, premier semestre 2016, on devrait pouvoir l'attribuer à quelqu'un. Et on a un autre projet également, là aussi en cours, et je pense aussi qu'on devrait réussir, j'espère, n'est-ce pas, Madame Lucas, à y arriver. C'est une alternative aux poursuites qui ne serait pas que ça. Ce serait en fait un groupe de parole pour les auteurs de violences conjugales, avant dépôt de plainte ou après dépôt de plainte. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une procédure judiciaire. Hein. On peut avoir un auteur qui va être orienté vers ce groupe de parole par le CIE. Enfin, c'est quelque chose qui est encore en projet, donc c'est pas quelque chose d'établi, mais c'est un peu l'idée qu'on a actuellement. Le CIDF pourrait très bien orienter un auteur vers ce groupe de parole sans qu'il y ait de procédure judiciaire, et nous-mêmes, dans le cadre des alternatives aux poursuites, dans le cadre par exemple d'un rappel à la loi, on pourrait aussi obliger cette fois l'auteur primo-délinquant, hein, l'auteur qui n'a pas eu d'antécédent, qui est souvent encore à la maison, puisque voilà, qui dit groupe de parole dit besoin que ça s'atténue, qu'on travaille là-dessus, qu'on travaille la prévention de la récidive. Et donc ça serait un peu comme... pas comme les alcooliques anonymes, mais voilà, c'est un peu là-dessus. C'est tout travailler avec d'autres auteurs, du coup,
parce
la problématique...
Parce que les victimes le demandent aussi, puisque exactement. Tout à l'heure, on parlait des victimes qui restent en couple. Et donc, il paraît essentiel de travailler non pas sur les victimes, mais prévenir les violences et travailler et prendre en compte les enfants témoins. Donc là aussi, je pense qu'on a un chantier. Prendre en charge les auteurs pour éviter la récidive et les victimes. La prévention des violences, je pense, passe par le triptyque victime, enfant, auteur.
Voilà, donc ce débat se termine. Merci à toutes, merci à tous d'y avoir participé. Merci pour sa bonne tenue. Et également, on va conclure un mot peut-être avec vous, Valérie Lucas. Rappelez le numéro de téléphone que l'on peut composer si l'on est confronté à ces violences.
Alors, on va rappeler le 3919, donc appel anonyme et gratuit. Pour les coordonnées du CIDF, c'est le 04 66 49 32 65. On est au 5 boulevard Brittext à Mende. Et puis, en conclusion, je reprendrai les propos du colonel Milonnet. Je pense qu'il faut s'associer pour dire non aux violences faites aux femmes et non aux souffrances que ces violences génèrent pour les femmes et trop souvent pour leurs enfants. Et aider à libérer la parole, ce qui est essentiel pour lutter contre les violences. Donc, merci à tous.
Madame Abinel.
Par le maître, au-delà du 39-19, il y a aussi le
17. D'où l'intérêt du partenariat.
Et le 115, si ces personnes se retrouvent incidemment à la rue et ont besoin d'un accueil en urgence.
Merci à toutes, merci à tous. Un débat qui était organisé par le Cercle des journalistes de Lozère, et on vous retrouve prochainement pour un nouveau débat.
Merci.
Merci.
Le cercle des journalistes de la Lozère.
Le cercle des journalistes de la Lozère.
Le cercle des journalistes de la Lozère.
Le cercle des journalistes de la Lozère, émission spéciale.
Le cercle des journalistes de la Lozère, émission spéciale. Émission spéciale, le cercle des journalistes de la Lozère.